Un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde. Donc, déjà, Essent, la fin, ça a passé vite. Le, je crois, 27 octobre, on avait commencé. Ça fait six mois. Six mois plus tard, on a fait le survol de toute la Bible en 100 textes essentiels. Et puis, comme toute chose, toute bonne chose a une fin, eh bien, nous voilà déjà. Et puis, on sait que la fin, pour nous, elle est heureuse. La fin, elle est grandiose. La fin se termine avec l'Apocalypse. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le roi qui revient ». Est-ce que ça sonne une cloche pour les alliancistes de cette église? Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça fait référence à quoi plutôt? Ouais. Sur notre logo, vous savez, il y a quatre symboles. Et puis, on l'a-tu sur notre... Non, on l'a pas. Ah, bon, on n'a plus ce logo-là. Ben, en tout cas, sur sûrement le site Internet de l'Alliance au Canada, c'est encore présent. Et il y a une couronne, et cette couronne-là représente un des quatre volets ou une des quatre facettes de Jésus qu'on valorise beaucoup dans notre famille d'Église. Et la couronne représente le roi qui revient. Donc, on croit que Jésus va revenir. Et puis, ça, c'est une motivation vraiment importante pour annoncer l'Évangile parce que en Matthieu 24, 14, ça dit... Cet évangile ou cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations et alors viendra la fin. Donc, moi j'ai une question pour vous. À quoi vous fait penser l'apocalypse? En un mot ou une expression, quand vous entendez le mot apocalypse, à quoi vous pensez? Hein? Fin, révélation, désastre, un grand trône, un grand, grand trône, du feu. Difficile à comprendre. Jugement.
Nouveau ciel.
Nouveau ciel, OK. Accomplissement des prophéties. GBU? C'est qui a dit ça? C'est Nicolas? OK, dernière...
OK, c'est tribulation.
Mais j'ai mis un peu les mêmes mots que vous, destruction, jugement, fin. J'ai mis compliqué, moi aussi. En tant que prédicateur, je trouve que c'est compliqué de prêcher là-dessus. Aussi, retour de Jésus. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est un des points importants, ce dernier. Un retour de Jésus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est comme une parenthèse, hein, au tout début et à la fin. Bon, ça va marcher mon affaire. Au tout début et à la fin, on va le voir, mais on parle beaucoup de que le Seigneur vient. Et puis, juste avant, je voulais comme vous donner quatre modèles d'interprétation pour l'Apocalypse. Ça va peut-être vous aider à vous situer. Et puis, la prochaine fois que vous allez lire ce livre-là, qui peut être compliqué, c'est vrai, ça va vous donner un peu des points de repère. Et puis... quatre grandes façons que les chrétiens, au cours des siècles, ont interprété l'Apocalypse. La première, c'est ce qu'on appelle le modèle prétériste. Ah, c'est un mot compliqué, mais c'est pas compliqué en réalité. C'est que cette façon-là de comprendre l'Apocalypse dit que faut vraiment comprendre le contexte historique de la fin du premier siècle. Et en fait, que toutes les références dans l'Apocalypse, toutes les images et les symboles utilisés font référence à des personnes, des lieux, des événements liés au premier siècle. Et puis, je vais toutes les présenter. Après ça, je vais rapidement me positionner avant qu'on lise ensemble le texte biblique. Donc, la deuxième approche, c'est l'approche historique. Et ces personnes-là pensent que l'Apocalypse fait des prédictions concernant les périodes de l'histoire de l'Église ou de l'histoire de l'humanité. Donc, le modèle historique va dire, par exemple, que les sept églises ferait référence à, disons, sept périodes de l'histoire de l'Église. La première Église était, elle était vivante, etc. La deuxième, bon, et là, il y en a qui sont plus tièdes, etc. Donc, eux, ils voient ça comme ça. Troisième façon de voir ou de comprendre l'Apocalypse, c'est l'approche symbolique. Donc, ces chrétiens-là vont dire que c'est surtout des images concernant les forces spirituelles qui sont toujours présentes, peu importe notre époque, notre situation. Donc, c'est vraiment intemporel, l'Apocalypse. C'est juste de comprendre les liens qui sont faits. Et comme les paraboles, par exemple, les paraboles représentent des éléments. Disons, la semence représente la parole de Dieu. Eh bien, de la même manière, disons, une bête représente telle chose et etc. Donc c'est vraiment symbolique. Et la dernière approche, c'est l'approche futuriste. Et là, c'est un peu plus à la Left Behind, pour ceux qui ont vu les films. Donc, ça concernerait les prédictions des événements liés à la fin des temps et pas encore réalisés. Ça veut dire que à partir de chapitre 4, pratiquement, jusqu'à la fin, tout ça reste à venir. Et puis, on peut lire ça en préparation. Quand ces événements-là vont venir, on va être prêt puis on va être capable de voir où est-ce qu'on, comment naviguer au travers de tout ça. Bon, j'espère que pas compliquer les choses encore plus, mais moi je pense que, bon, comme tout texte biblique, faut toujours se dire d'abord comment est-ce que ça répondait à un besoin à l'époque. Donc la première approche qu'on appelle prétériste est vraiment importante. Mais deuxièmement, je pense que il y a aussi vraiment beaucoup de symboles dans l'Apocalypse et l'approche symbolique va vraiment nous aider à faire du sens. Et puis aussi, c'est que ça rend le texte biblique utile pour tous les gens, toutes les époques, tous les chrétiens, peu importe leur contexte, on peut utiliser des vérités pour nous. Et alors que l'approche historique va plutôt dire, ah ben là, si t'es pas rendu là, ça s'adresse pas à toi dans le fond. Donc moi, je pense que l'approche prétériste et symbolique sont vraiment les deux façons les plus judicieuse d'approcher le livre de l'Apocalypse. Certainement, il y a des éléments futuristes dedans, comme il y a des choses qui sont pas encore accomplies, comme bon, le retour de Jésus, ou bien encore la résurrection de ceux qui sont morts, etc. La venue des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il y a des choses qui sont encore à venir, mais je pense que vraiment, faut comprendre ça d'abord dans le contexte des gens de l'époque, ensuite dans sa façon symbolique, et puis certainement ça fait référence à des événements futurs, mais dans les grandes lignes, d'après moi. Faut pas regarder ça comme littéralement au détail près, comme si ça allait nous dire tout ce qui allait se passer là au jour près. Donc, ceci étant dit, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage. En fait, le premier chapitre, c'est juste des références rapides. Le premier chapitre, on voit que le thème du retour ou de la venue, la seconde venue, est vraiment présent. Et comme une parenthèse, ça revient à la toute fin dans le dernier chapitre. Donc, on va lire ensemble. Chapitre 1, le temps est proche. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Voici qu'il vient sur les nuées. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, comme vous voyez ici, j'ai juste ressorti les versets clés qui parlent à répétition du fait que Christ va venir pour une deuxième fois. Et, comme j'ai dit au dernier chapitre, on va lire quelques versets encore. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus. Donc, la répétition est vraiment très claire. Et moi, ça m'amène à vous poser une question tout ça. Et cette question-là, c'est « Croyons-nous vraiment qu'il reviendra ?» Deux mille ans après que Jésus soit parti à peu près, on l'attend toujours. Est-ce qu'on l'a bien compris? Ou est-ce qu'on ne devrait peut-être pas renouveler notre compréhension de qu'est-ce que le retour de Jésus? C'est ma question pour vous. Et puis j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce matin. J'ai guéri ma manette. Et voilà. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est pas dans l'Apocalypse que j'aime tourner, mais c'est dans 2 Pierre. Donc, je vous invite à lire avec moi 2 Pierre 3. On va lire les versets 1 à 10. Et puis, il y a vraiment une belle apologie, une belle défense, en fait, à ce niveau-là, du retour du Seigneur. Et puis, j'espère qu'on nous faire redécouvrir ensemble l'importance de cette doctrine et puis qu'on puisse la voir comme vivante à nouveau pour nous aujourd'hui. OK, donc je vais lire. 2 Pierre 3, 1 à 10. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. Ils diront « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, au milieu de l'eau, fut et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, mais comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Prions. Père Céleste, on veut te remercier pour ta parole et pour ta promesse et pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce que de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, tout au long de notre vie, tu es présent et tu nous as créés et puis tu nous recevras auprès de toi. Et de la même manière, tu as créé le monde et puis tu nous en annonces aussi la fin et de A à Z, tu es présent au milieu de nous et tu es fidèle. Et Seigneur, on veut avoir le même focus que toi, on veut avoir le même but final, la même lignée que toi, Seigneur, et on te demande de par ton esprit, parler à nos cœurs ce matin, et Seigneur, aide-nous vraiment à être en accord avec ton plan ultime, Seigneur Dieu, et puis à veiller à être, Seigneur Dieu, bouillant pour toi, et je te demande de vraiment parler à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Donc, croyons-nous qu'il reviendra. Les versets qu'on vient de lire sont très intéressants. La première chose, j'aimerais reprendre verset par verset pratiquement pour voir quelques points que l'apôtre Paul fait, l'apôtre Pierre fait. Et le premier de ces points, c'est que êtes-vous certain de vouloir rejeter cette doctrine? Parce que si oui, c'est en effet, c'est rejeter le témoignage des Écritures. Pierre commence par rappeler que la doctrine du retour du Seigneur trouve son fondement dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, ainsi que dans les paroles de Jésus lui-même. Donc, je vais juste tourner, parce que j'ai oublié de tourner ici. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à la garder ouverte, parce que je vais faire beaucoup de références, justement, au contexte de 2 Pierre. Donc, gardez votre Bible ouverte. J'ai pas les versets au tableau nécessairement. 2 Pierre, donc on vient de lire ensemble 2 Pierre 3, versets 1 à 10. Donc, dans les versets 1 et 2, il a dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrit. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes, numéro 1, et du commandement du Seigneur et Sauveur, numéro 2, transmis par vos apôtres. » Donc, et tout de suite après, il parle de l'avènement, là, où est la promesse de son avènement. Donc, la claire intelligence qu'il veut éveiller, c'est vraiment en lien avec le retour du Seigneur, et puis à cause du fait que certains commencent à remettre ça en question. Donc, il pointe vers les prophètes, et il pointe vers les paroles de Jésus, que les apôtres ont eux-mêmes transmis. Et c'est intéressant parce que Pierre lui-même est un apôtre. Pierre lui-même a au tout début de cette même épître, affirme que il a pas construit des fables ou des mythes habilement conçus, mais c'est en tant que témoin oculaire de Jésus-Christ, en tant que disciple qui a vécu avec lui, qui a parlé de son avènement. Regardez le verset 16 du chapitre 1. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, il fait référence premièrement aux paroles de Jésus, et par la suite, il va dire un événement clé qu'il a eu d'assister en tant qu'apôtre, et c'est l'événement où est-ce que sur la montagne, il a vu Jésus être transfiguré. Et donc, à ce moment-là, il a entendu la voix de Dieu, le Père, venant des cieux, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et cette histoire, on la retrouve dans les Évangiles. Et c'est vraiment important parce que à ce moment-là, dans le ministère de Jésus, Jésus avait réussi à amener les apôtres à croire qu'il était le Messie, mais ils avaient une méconception de qu'est-ce qu'était le Messie. Pour eux, le Messie, c'était un homme politique qui va établir le royaume de Dieu de façon terrestre. Et ça, c'était vrai, mais ça concernait le retour de Jésus qui allait venir plus tard. Donc, Jésus devait leur dire, le Messie doit passer par la croix. Et ça, c'était difficile à comprendre pour eux, au point tel que certains ont eu des doutes à savoir, est-ce qu'on suit Jésus encore ou pas? Et c'est là que Jésus a donné cet enseignement, que celui qui veut me suivre, se charge de sa croix, que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, parce que moi, en tant que Messie, c'est par la croix que je passe. Et c'est tout de suite après cet événement dans Marc 8, vous irez lire, que Dieu doit confirmer l'identité de Jésus, parce que là, Jésus arrive à un point tel que c'est comme ça passe ou ça casse. C'est sa popularité et ses disciples qui ont la misère à comprendre, dans le fond, sa vraie identité de Messie, vont continuer de le suivre, au travers la croix ou pas. Et là, c'est là qu'il y a eu la transfiguration. Le Père atteste, oui, c'est bien par la croix que le Messie doit passer. Et donc, ici, Pierre, dans le fond, vient faire appel au témoignage de Jésus. Jésus a annoncé son retour, mais aussi au témoignage du Père. Le Père, du haut des cieux, a confirmé l'identité de Jésus, et Jésus, lui, a dit qu'il allait revenir. Donc, il y a deux témoignages, le témoignage de Jésus et du Père. Et tout de suite après, dans 1 Pierre 19, Pierre va faire appel maintenant à une autre sorte de témoignage. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à quoi? Je vais voir si vous me suivez ou si je suis seul là, dans ma parole. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Il fait référence à quel jour? Au jour du retour. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est le matin, c'est un nouveau jour, hein, c'est une nouvelle ère, et l'étoile, c'est ce qui brille, donc jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, il fait référence aux écrits prophétiques. Et tout de suite après, il va préciser, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc là, c'est intéressant parce que Pierre est en train de dire, Jésus l'a dit lui-même qu'il allait revenir, le Père a attesté l'identité de Jésus, donc lui aussi dit qu'il va revenir, et là, le Saint-Esprit, par les écrits prophétiques, dit qu'il va revenir. Donc on a la Trinité qui atteste le fait que Christ va revenir. Tu as la Trinité, tu as aussi les apôtres, les prophètes, tu as l'Ancien Testament, tu as le Nouveau Testament. Donc, rejeter la doctrine du retour de Jésus, c'est rejeter pratiquement toute la Bible, c'est rejeter Dieu lui-même. Donc, c'est vraiment une doctrine que, dans 2 Pierre, on voit vraiment l'importance. Mais c'est pas fini, il fait juste commencer en réalité. J'ai la misère avec ma manette. OK. Ma question. Connaître les vérités divines demande-t-il une certaine disposition d'esprit? Suite après, je reviens là dans mon passage de base de 2 Pierre 3. Dans 2 Pierre 3, j'aimerais qu'on lise le verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. Et là, c'est là qu'ils disent où est la promesse de son avènement, là, 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 tout est toujours pareil. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi la raison pour laquelle les personnes remettent en question le retour, selon ce verset-là? C'est que ils marchent selon leur propre convoitise. S'il n'y a pas de chat qui revient, les souris peuvent danser autant qu'elles le voudront. Et puis, eux, ils disent, en niant le retour du Seigneur, eh bien, on a l'esprit tranquille, on fait ce qu'on veut, on marche sur nos propres convoitises, et puis on réussit à en apporter autant avec nous que l'on veut. Et donc, c'est ça. Le cœur se branche pour quelque chose, je convoite quelque chose, j'ai telle convoitise qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Donc, mon cœur se branche, et après ça, la raison suit mon cœur et est au service de mon cœur. C'est ça que c'est, le passage dit, dans le fond. Blaise Pascal l'a bien dit, lui aussi. Combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste sa cause? On a un peu d'argent, un avocat, là. Tu vois, là, la raison va suivre, la raison va trouver plein de bons arguments pour condamner le non-coupable ou vice-versa. Blaise Pascal continue en disant « Plaisante raison qu'un vent manie à tout sens. » Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein? Donc, ils ont cette convoitise, on remet en question le jour du Seigneur, parce que ça nous donne l'esprit tranquille concernant aux choses qu'on veut faire, qu'on sait être incompatible avec la volonté de Dieu. Il y a un rapport entre nos croyances et notre cœur, un rapport encore plus étroit entre nos croyances et notre cœur que entre nos croyances et notre raison. C'est ce que les Écritures disent. Et les grands, je cite ici Jay Wood, qui est un philosophe chrétien, qui dit « Les grands penseurs chrétiens tels qu'Augustin, Thomas d'Aquin, Blaise Pascal, Jonathan Edwards, John Henry Newman et d'autres ont insisté, contrairement aux prédicateurs de la pure raison, que nous venons à la connaissance de Dieu et des autres vérités spirituelles seulement si nos affections sont correctement ordonnées. » Donc, c'est juste de redire autrement que notre cœur, quand il est humble, quand notre cœur cherche vraiment Dieu, il est ouvert d'esprit, là, on va pouvoir vraiment accéder aux vérités de Dieu, mais tant que ce ne sera pas notre disposition d'esprit, on aura beau avoir la vérité de Dieu devant nos yeux, notre cœur va, notre raison va trouver des moyens de remettre tout ça en question et de douter. Il y a trois sortes de doutes, hein? Il y a des doutes émotionnels. Donc, je sens pas que Dieu est proche de moi. Je ressens pas sa présence ou, etc. J'ai peur face à la mort ou on dirait que ça, c'est des doutes émotionnels. Tu as des doutes rationnels. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que le Big Bang et l'évolution n'expliquent-ils pas toutes nos origines, ce qui rend superflu l'existence de Dieu? Ça, c'est des doutes rationnels. Quand on a des réponses aux doutes rationnels, souvent ça les doutes s'estompent. Mais si on a des réponses malgré ça, les doutes ne s'estompent pas, ça veut dire que c'est pas un doute rationnel que toi, c'est un doute soit émotionnel ou le dernier, c'est volitif. Un doute volitif, c'est que c'est clair pour moi que Dieu existe, c'est clair pour moi que même peut-être Jésus, c'est très crédible que Jésus soit le Christ mort pour nos péchés, tout ça, mais je veux pas vivre selon le style de vie qu'il me demande de vivre, je veux pas. Et sur cette base-là, en fait, je rejette. Ou j'ai des doutes, mais dans le fond, mes doutes sont liés plus à mon cœur résistant que à une vraie... raison intellectuelle. Et souvent, les gens vont cacher la vraie nature de leur doute pour présenter ça comme si c'était un doute rationnel, hein, comme si c'était... Et en fait, ce n'est qu'un écran de fumée la plupart du temps. Donc, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant dans les versets qui sont là. L'interprétation spirituelle du retour de Jésus est-il possible? Peut-être qu'on pourrait se dire, bon, oui, le Seigneur va revenir. C'est une doctrine importante, mais peut-être qu'il est déjà de retour spirituellement. Peut-être qu'il va revenir un moment donné un peu plus. Son retour va peut-être être un grand réveil planétaire et puis que dans le fond, il viendra pas physiquement, littéralement. Vous savez, faut pas prendre les Écritures à la lettre. certains peuvent dire. Donc, petite parenthèse sur notre façon de comprendre le retour au verset 4. Les moqueurs disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que Pierre va pas remettre en question l'approche des moqueurs. Il va pas dire, ben, la question où est-il, où est la réalisation de sa promesse ne se pose pas parce que, dans le fond, on peut pas le voir à la vue. C'est pas quelque chose qui est visible. Et vous savez, il aurait pu dire ça parce qu'il y a même dans les évangiles, Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, si c'était un retour spirituel, symbolique, Pierre aurait dit, le retour de Jésus ne se fera pas de façon à frapper les regards. Mais il dit pas ça. Au contraire, il dit, il prend pour acquis la question et où l'accomplissement. Et de toute évidence, c'est pareil comme depuis toujours. Donc, on voit pas de nos yeux manifestement le retour de Jésus. Fait que il prend cette question-là et il la remet pas en question. Il fait juste construire son apologétique là-dessus. Il comparera plus loin l'avènement du Seigneur à des interventions divines qui ont lieu concrètement dans l'histoire du salut aussi. Donc, comme par exemple, il va dire au même titre que au jour de Noé, Dieu intervint pour juger le monde et le châtier. Eh bien, Christ à son retour, ça va être pareil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ordre concret, un retour qui va se faire un peu comme dans Actes. Dans Actes, où est-ce que les disciples ont assisté vraiment au fait que Christ a été enlevé dans les cieux devant eux. Et là, ils étaient comme bouche bée devant cet événement. Et là, des anges arrivent, ils disent « Pourquoi restez-vous figés vers le ciel? » Christ va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc, c'est vraiment un retour réel de Jésus que l'on doit attendre. Une autre question pour vous. L'action de Dieu est-elle limitée par l'expérience de chaque individu? Parce qu'il y a quelque chose dans le texte encore que nos contemporains peuvent utiliser. Et pas juste concernant le retour de Jésus, mais aussi concernant tous les miracles et toutes les interventions de Dieu. C'est dans les versets, encore dans le verset 5, dans le verset 4, excusez-moi. Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Je vais juste me retrouver. Donc, pour reformuler ce qui vient d'être dit, comme dans mon expérience personnelle, je vois pas Dieu agir, je vois pas Dieu à l'œuvre, je vois pas de miracle, je vois pas d'intervention divine, je vois pas de jugement, je vois le méchant qui est là puis qui fait ce qu'il veut et qui une belle vie, qui a des bénéfices de son impiété. Moi, je vois pas ça. Puis depuis la création du monde, en fait, c'est toujours comme ça. Toi, t'as-tu vu Dieu? T'as-tu vu Dieu faire des miracles? Toi, t'as-tu vu Dieu intervenir de façon spéciale? Tout pareil. Tous les jours sont pareils. Dieu intervient pas. Pourquoi penser que si Dieu intervient pas aujourd'hui dans mon contexte, dans ma vie quotidienne, depuis que je suis né, et puis toutes les personnes que je connais autour de moi, c'est comme ça? Pourquoi penser que dans la Bible, c'était comme ça? Toujours pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle, il n'y en avait pas avant. Il n'y en a pas au Québec, il n'y en a pas en Afrique. Tout est pareil depuis le commencement. Et puis ça, on appelle ça, même les historiens vont appeler ça l'analogie de l'histoire ou l'analogie de la foi pour dire que, justement, quand ils vont approcher la Bible, là, comme des historiens, là, on va tout enlever le miraculeux là, parce que on l'en voit pas, mais c'est pas historique. Qu'est-ce que Pierre fait en réponse à ça? Verset 5. Commence par dire, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, au milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, il commence par faire référence à la création du monde. Le premier miracle de Dieu, c'est quoi? C'est la création du monde. Et ça, c'est intéressant parce que même aujourd'hui, les scientifiques vont admettre ça, vont admettre que le monde, l'univers a eu un commencement. Ils vont l'expliquer par le Big Bang, mais peu importe. Le point demeure, l'univers a eu un commencement. Et puis, ce commencement-là, c'est le premier miracle de Dieu. Et si Dieu est capable de faire un miracle au niveau cosmique comme la création de l'univers, il peut faire un miracle au niveau cosmique comme le retour de Jésus et puis ce jugement planétaire qui est décrit de façon grandiose autant dans 2 Pierre que dans l'Apocalypse sous forme d'images et de symboles. Et deuxième chose aussi, c'est qu'il commence avec le point A de l'histoire, la création, mais par la suite, il va à un autre grand événement qui est Noé. Dieu a déjà fait un jugement cosmique ou un jugement planétaire au travers de Noé. Dieu a déjà séparé les croyants, les justes, ceux qui marchent par la foi, des impies. Et déjà en Noé, déjà en Genèse, c'était quelque chose qu'il a fait. Et par la suite, il dit et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau, moi je l'ai lu, mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et il faut savoir que, en fait, ce passage-là, ou ce double argument-là de Noé, je me mélange un peu, là, mais l'argument de Noé a déjà été utilisé juste avant, et aussi l'argument du feu, comme s'il y a le jugement par le feu, dans le chapitre 2 de 2 Pierre, tournez avec moi, Pierre avait déjà un peu élaboré là-dessus, puis il y a des liens intéressants à faire. Donc, 2 Pierre 2, on va lire 5 à 8. Premier verset 5, c'est Noé, puis 6 à 8, c'est Lot. Donc, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Donc, il y a la création du monde, il y a Noé, il y a Lot, qui était plus petit comme jugement, mais encore là, c'est une intervention miraculeuse de Dieu. Et donc, bref, la réponse de Pierre, c'est quoi? C'est il met les choses en perspective. Il met les choses en quelle perspective? Selon la perspective de, je l'ai mis ici, ce qu'on appelle l'histoire du salut. Le contexte aux interventions divines, c'est l'histoire du salut. Dieu agit de façon miraculeuse, de façon spectaculaire pour communiquer quelque chose aux êtres humains. Et maintenant, nous, on a la parole qui nous communique de A à Z. Et puis, c'est pas que Dieu ne fait plus de miracles ou Dieu ne fait plus d'interventions extraordinaires, mais c'est beaucoup plus rare maintenant parce que le rôle premier, c'était d'attester la véracité de ça et que, dans le fond, cet évangile-là concernant Jésus, on devait clairement savoir qu'il vient de Dieu, dans le fond. Et puis... Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'attester ça. Donc c'est pas à Dieu de se plier à nos caprices, à tous de voir ces miracles, comme certains demandaient à Jésus, fais un miracle pour qu'on croie en toi. Comme j'ai dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. T'as pas besoin de voir un miracle pour croire en Dieu. T'as juste besoin d'être à l'écoute de tes besoins existentiels, ton besoin de pardon, ton besoin d'espérance, ton besoin de sécurité, de savoir que peu importe quelle maladie je peux attraper, peu importe quelle tragédie peut m'arriver, j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin d'une sécurité. Écoute tes besoins existentiels et puis tu vas voir que ça, c'est suffisant pour mettre ta foi en Jésus. Et puis, ça répond clairement à nos besoins. Et nulle autre religion, nulle autre personne spirituelle peut répondre à ça que Jésus. Amen. continue au verset... verset, là, je reviens dans le chapitre 3 de 2 Pierre. Dans 2 Pierre 3, il dit, au verset 8, « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Donc, à nos yeux, à nous, c'est long. Il nous dit bientôt, il nous dit le temps est proche, mais c'est long. Ça fait 2000 ans et ça commence à être évacué de notre pensée. Alors que pour les chrétiens des premiers siècles, là, c'était très, très réel. Ça a été une force très importante dans l'expansion du christianisme que de se dire « Jésus revient ». C'était tellement réel que dans 1 Thessaloniciens, Paul, il dit « OK, ceux qui ont arrêté de travailler parce qu'ils pensent que Jésus revient demain, là, wow, c'est comme recommencer à travailler que celui qui travaille pas mange pas, là, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment présent au tout début. Mais pour nous, c'est le contraire. Pour nous, on est rendu 2000 ans plus tard, puis c'est tellement loin, c'est comme c'est tellement abstrait, c'est tellement comme on n'est plus convaincu. Mais non, l'apôtre Pierre dit, la perspective de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Concernant le temps, il va citer le psaume ici, je l'ai-tu dans mes notes? C'est un psaume 90, en tout cas, je ne sais plus exactement, où est-ce que dans le fond il dit que dans le psaume que 1000 ans sont comme pour Dieu la veille d'hier ou la nuit qui vient d'être passée, ça passe comme ça. Et puis pour nous c'est long, mais comme aux yeux de Dieu on est comme dans le deuxième jour ou trois, on entame le troisième jour. Et Dieu a comme une petite tendance que le troisième jour ressuscite les morts. Fait que moi, je me dirais, on est mieux d'être prêt. Ça peut être vers la fin, là. Ça peut être vers la fin. Ça peut être dans 900 ans. Ça peut être dans 50 ans. On ne sait pas. Ça peut être demain. Mais c'est une doctrine qui est véritable, que l'on doit croire et qui a comme fonction de, justement, nous préparer. On va le voir bientôt. Mais... autre que la question du temps, il y a aussi la question du but de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu prend son temps comme ça? C'est que c'est la preuve de sa patience. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Un autre beau texte par rapport à ça, vite fait, là, qui me vient en tête, c'est dans Romains 1. Je l'avais pas prévu, mais j'ai à cœur de le lire. Dans Romains 1, 2, verset 3 et les suivants. « Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Donc, un autre passage qui illustre la patience de Dieu, comment elle nous pousse à la repentance afin que au jour du jugement, on soit prêt et puis que personne ne périsse à ce moment-là. La conclusion de Pierre, eh oui, le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On garde la même ligne, c'est la même doctrine. On change pas ça parce que certains trouvent que c'est long. Et les applications de Pierre, eh bien, au verset, je vais lire, là, verset 11 je reviens dans 2 Pierre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, tout notre monde est en voie d'être dissous ou changé. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Donc, travailler sur son caractère, travailler sur notre cœur, sur tous ces volets que Dieu nous incite à lui ressembler. Aussi, garder cette attitude d'attente et d'anticipation active. Comme j'ai dit, c'était une force pour la propagation de l'Évangile, Matthieu 14, 24, 14. Cet Évangile sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Lui, il dit hâter l'avènement de Dieu. Donc, anticiper, ayez hâte à ce moment-là, ça va être un moment extraordinaire. Et pour que ça arrive, toutes les nations doivent entendre parler de l'Évangile. Et encore des nations, des peuples non atteints de nos jours. Donc, continuons à ce niveau-là. Compréhension grandissante de la parole de Dieu. Et là, ça, je tire ça des versets 17 et 18 que je vais lire aussi. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. » Je vois le temps qui avance. OK, on va continuer, ouais, on continue? Ouais, on peut faire un vote, là, qui veut arrêter, qui veut continuer. Mais avant de... Parce que là ça, c'était tout mon apologétique du retour du Seigneur. C'est vrai, ça va arriver, c'est important, etc. J'ai une question pour vous, peut-être juste pour faire un petit changement là. Comment vous sentez-vous à l'idée que Christ va revenir? Comment vous sentez-vous? Quelle impression ou disposition d'esprit vous avez à la pensée que Christ va revenir de cette façon? Oui, Laurie?
Moi, je dirais que c'est vraiment confiance. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, ça me peut me déprimer, qui peut avoir tendance à faire des lourds, à des injustices. Puis je me dis, mon espérance est dans le retour de Jésus. Donc, peu importe quand, il y a une bonne fin à tout ça. Il y a une issue à tout ce mal-là. Fait que moi, je suis confiante, juste en cette promesse-là, du retour de
Je trouve ça vraiment bon ce que tu as dit. Moi, ce qui m'a accroché dans ce que tu as dit, c'est quand je regarde ce qui se passe dans le monde. Parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde ma vie, moi, je suis confortable. Moi, pourquoi Seigneur faudrait qu'il revienne? Regardez, là, il fait beau, là, toutes les feuilles, là, sont, la vie est sortie. Comme les Canadiens vont en Syrie, là, Seigneur, coupe pas, s'il te plaît, là, ils sont en train de remonter, là, je veux au moins voir ça. Puis ma perspective, hey, ça va bien, Seigneur, on va continuer d'évangéliser un petit bout. Mais quand on regarde, par exemple, mettons-nous dans la perspective, par exemple, de d'autres peuples, de d'autres nations. Mettons-nous deux secondes dans la peau d'un Nord-Coréen ce matin. Un Nord-Coréen. En Corée du Nord, on peut pas sortir, on peut pas entrer de là. C'est une dictature. Comme il y avait en Deuxième Guerre mondiale, t'as des camps de concentration, t'as des témoignages de personnes qui se sont évadées de là. Mettons-nous dans leur peau. Je comme si viens me chercher. Est-ce que eux ont hâte au retour du Seigneur? Ouais. Au sud, là, c'est massivement chrétien. T'as des églises, là, avec des dizaines de milliers de personnes. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui se sont infiltrés, là. Je suis sûr qu'il y en a des missionnaires, là, comme Paul, là. On va aller où est-ce qu'ils n'ont pas entendu parler. Puis, mais, mettons-nous dans leur peau. Oui, ils ont hâte que Christ revienne et qu'il fasse régner la justice sur la terre. Mettons-nous dans la peau de, je sais pas, moi, Nigeria. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Hein? Les 200 filles qui ont été enlevées, les massacres à Nouraïbi, au Soudan. Ah oui, c'est ça. Condamnée à mort, c'est ça. C'est elle qui est enceinte. C'est elle qui est enceinte, ouais, c'est ça. Mettons-nous dans la peau de ces personnes-là, et là, on va se dire, ah, ouais, peut-être que le Seigneur devrait revenir. D'ici là, faisons ce que l'on peut, prions, intercédons, supportons des ministères qui sont prêts, eux, à aller dans les endroits que nous, on serait pas prêts à aller. Et continuons l'avancement du royaume. Si au Québec, c'est beau, c'est pas partout comme ça. Et donc, gardons ça en tête. Merci, Laurie, c'était vraiment... D'autres personnes, comment vous vous sentez à l'idée que Christ revient? Dra. Ou reviendra. Mm-hmm. Ouais, c'est bon. Puis si on n'a pas eu les parents qui ont toujours communiqué cet amour-là, se rappeler que c'est Christ qui définit l'amour, ouais. Que le Père a à notre égard, non pas notre Père terrestre ou notre Mère terrestre qui définit le comportement de Dieu à notre égard. Moi, c'est ce qui me vient en tête, mais ouais, vraiment, c'est bon. Alors, on va peut-être juste terminer avec certains autres points. Là, j'avais juste à cœur de partager un peu plus de symbolisme dans... Oui? Ouais. Ben, merci de partager. Puis, si tu veux, viens. Après, on priera ensemble par rapport à ça. Puis, certainement, Seigneur peut aider à faire la différence dans ta vie à ce niveau-là. OK. Je vais juste continuer. Puis, mais après ça, maintenant, on en reparlera puis on priera ensemble. Donc, OK, un temps de guerre, Apocalypse, il y a ce verset-là qui dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Et puis, juste donner comme peut-être un peu un exemple de comment interpréter tout ça. Une voix forte, c'est vraiment une image d'un message clair. Et puis, une trompette, on va voir avec un verset là bientôt, c'est un appel à la guerre. Donc, ça, c'est au tout début de l'Apocalypse. Donc, avant même qu'on entende le contenu de cette voix-là, la façon qu'on a présenté la voix avec laquelle Jésus parle dans Apocalypse 1:10, suite, on sait que c'est un appel à la guerre. L'Apocalypse, c'est un appel à la guerre spirituelle, à la guerre, je pourrais même dire, culturelle, hein, où est-ce que des croyances affectent des vies. Et dans 1 Corinthiens 14:8, Paul il dit ceci dans le contexte du parler en langue. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Donc, ici, c'est pas incertain, c'est une voix forte. C'est quel type de son? C'est un son de trompette, donc c'est vraiment en lien avec le combat. Et puis, nous devons combattre jusqu'à ce que Christ revienne. C'est l'attitude avec laquelle on doit sortir. Et se souvenir que si autour de nous c'est pas si pire, il y a d'autres endroits où est-ce que il y a vraiment il y a des luttes à avoir. Peut-être bon, on a tous nos luttes aussi dans nos propres vies là, mais souvenir qu'à l'extérieur Dieu nous appelle à faire une différence. Quelle sorte de guerre? Une guerre spirituelle contre Satan et ses anges. Le reste de l'Apocalypse utilise panoplie d'images pour illustrer ça. Puis aussi une guerre dans laquelle la prière et la louange des saints initient l'ouverture ou l'initiative de l'action de Jésus. Dans Apocalypse 5, verset 8, peut-être rapidement, hein, je vais bientôt finir. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, là c'est Jésus, c'est l'agneau qui reçoit le livre avec sept sceaux que personne ne peut ouvrir. Puis là, l'agneau, lui, il s'avance puis il le prend. Les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et là, le chant continue. Et à partir, on parle d'adoration tout le reste du chapitre 5. Au verset 1 du chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Et là, on commence avec les fléaux, etc. Mais le point là-dedans, c'est quoi? C'est que les prières des saints et l'adoration des saints, c'est ce qui initie l'action de Jésus dans le combat spirituel qui est ici la fin des temps. Donc, vraiment, c'est un encouragement ici à ne pas se relâcher à ce niveau-là. Et je passe rapidement, parce que mon point c'était principalement de vous convaincre que le retour de Christ est encore une bonne doctrine. Donc, je pense que je vais juste ici défaire mon PowerPoint là. Donc, une autre idée, c'est que ça nous appelle un temps de consécration totale. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi. Et ça, c'est une image de quoi tout ça? Les yeux avec une flamme de feu, les pieds comme si ils étaient du bronze rougi. C'est l'image d'un fondeur qui épure son or, qui enlève toutes les scories, toutes les impuretés dans ses métaux pour que ça soit vraiment de bonne qualité. Donc, c'est vraiment une image d'être engagé de façon complète, d'être dévoué à 100%, d'être consacré entièrement. Et puis, je pense que je vais finir avec cette citation de C.S. Lewis. Le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance, mais s'il est vrai, a une importance infinie. La seule chose qui soit impossible, c'est qu'il soit modérément important.